Bonjour à tous. Ils voulaient maigrir. Leur médecin leur a prescrit du Mediator. Certains en sont morts. D'autres garderont des séquelles à vie. Un énorme scandale sanitaire pour un énorme procès qui commence aujourd'hui. 2700 parties civiles contre les laboratoires Servier et l'Agence du médicament, entre autres. On ouvre cette séquence judiciaire dans un instant. Avant de refermer la séquence, Thomas Cook, le voyagiste britannique, a fait faillite dans la nuit, laissant 600 000 voyageurs sur le carreau en pleine vacances, dont 10 000 Français. Il va falloir rapatrier tout le monde. La forêt amazonienne, grande malade de la terre. Emmanuel Macron et les pays amazoniens à son chevet à l'ONU aujourd'hui, sans Jair Bolsonaro. Elle sera dans ce studio dans 20 minutes et le climat, c'est son credo.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui publie Le lieu des possibles aux éditions de l'Observatoire. Elle est l'invitée du grand entretien ce matin. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000, sinon passer par les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Dans ce journal aussi, la gauche partira-t-elle unie pour les municipales à Marseille? Ça n'est pas impossible. Le trésor du 1% logement pour faire tourner le budget 2020. Et les bébés du 23 septembre, nous sommes le jour qui compte le plus de naissances en France. On vous expliquera pourquoi.
France Inter.
33 ans de prescription médicale, 5 millions de personnes sorties de chez leur médecin avec du Mediator sur ordonnance, un antidiabétique massivement détourné de son but premier. C'est comme coupe-faim pour maigrir qu'il a été principalement utilisé toutes ces années. Malgré les alertes sur sa dangerosité pour le cœur, la Belgique ne l'a jamais autorisé, l'Espagne et l'Italie l'ont interdit en 2003. Pas la France, qu'il a laissé sur le marché jusqu'en 2009, provoquant la mort de 500 à 2000 personnes à terme et des milliers de malades à vie. C'est donc un gigantesque procès qui s'ouvre aujourd'hui pour 7 mois, celui des laboratoires Servier, mais pas seulement. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Florence.
C'est toute la chaîne du médicament qui est en cause.
Oui, 10 hommes et 2 femmes vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. On s'en souvient, le fondateur des laboratoires Servier, Jacques Servier, est mort en 2014. Alors sur le banc des prévenus, il y aura l'ex numéro 2 du groupe, jugé avec la maison mère et 9 filiales de Servier pour tromperie aggravée. On les accuse d'avoir caché la vraie nature du médicament, pour escroquerie auprès de la Sécurité sociale qui remboursait le Mediator, et aussi pour homicide et blessures involontaires pour avoir occulté ses effets secondaires nuisibles. Également visée, et c'est une première, la passivité des autorités sanitaires. L'agence du médicament est renvoyée pour blessures et homicide involontaire par négligence, pour n'avoir pas retiré le Mediator malgré des alertes dès la fin des années 90, car ce que va juger le tribunal, c'est tout un système d'influence des experts qui travaillaient à la fois pour l'agence du médicament et pour les laboratoires Servier.
Alors voilà pour les prévenus, Corinne, mais si ce procès est inédit, c'est aussi par le nombre de ses victimes, 2700 parties civiles.
Oui, parmi les milliers de cas que le tribunal va étudier, la plupart sont des accusations de tromperie sur la nature du médicament. Seulement 90 cas de blessures et 4 d'homicides involontaires seront jugés, car beaucoup de dossiers sont encore à l'instruction. Arriver à prouver un lien certain entre la prise de Mediator et une maladie, eh bien c'est très long. Il y aura donc sans doute un autre procès Mediator dans l'avenir pour ces personnes. Enfin, il faut souligner que les laboratoires Servier ont déjà versé 130 millions d'euros à 3700 personnes. Ceux qui ont accepté l'indemnisation renoncent à aller en justice. C'est habituel en la matière. Bref, on estime que seulement 10% des parties civiles, dont beaucoup sont âgées et malades, viendront jusqu'au tribunal.
Corinne Audouin, merci pour tout ça. Avant l'ouverture de ce premier procès pénal, notre dossier sur franceinter.fr et notre podcast avec les principaux protagonistes de l'affaire, la pneumologue Irène Frachon, le ministre de la Santé de l'époque Xavier Bertrand, ça s'appelle Poursuite et c'est excellent.
Il est 8h04, avant lui, le business du voyage organisé n'existait pas.
Thomas Cook, homme d'affaires britannique, en a l'idée en 1841. Il fait alors découvrir l'Égypte et la Palestine à ses compatriotes pour devenir incontournable sur le marché des vacances jusqu'à 7 nuits et 7 faillites surprises. Des milliers de voyageurs de voyages annulés à partir de ce lundi et 600 000 voyageurs à rapatrier. Thomas Cook, qui possède aussi Jettour, meurt de sa dette que ses actionnaires n'ont pas voulu renflouer. Ce qui est absolument incroyable pour Michel Salin, qui gère 30 agences de la marque en France, qui fait de lui le 6e tour opérateur français, au micro de Philippe Lefebvre.
Nous savions que des négociations étaient en cours et nous n'imaginions pas un seul instant que que la situation puisse être un dépôt de bilan qui conduirait à un désastre au niveau des clients qui ont fait confiance à la marque et également aux agences distributrices en France qui vendent Thomas Cook et du Jet Tour. Nous ferons le maximum pour leur venir en aide. Bien sûr, il y aura des dispositifs de prévus pour le rapatriement. La situation est complètement inédite et inattendue.
Alors, on estime à 10 000 le nombre de Français en vacances en ce moment avec Thomas Cook à l'étranger. Les Britanniques sont 150 000. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres. Chez vous, Antoine, les autorités ont activé un plan d'urgence, l'opération Matterhorn, du nom de la campagne américaine de bombardement pendant la Seconde Guerre, c'est dire si la chose est prise au sérieux, pour rapatrier les ressortissants.
Oui, le gouvernement a d'ailleurs déjà réservé près d'une quarantaine de charters pour prendre en charge les 150 000 vacanciers britanniques grâce à des liaisons assurées notamment par British Airways et EasyJet à l'étranger. Les clients français ou européens qui ont acheté un séjour tout compris seront eux aussi rapatriés. Ce ne sera pas forcément le cas sans frais pour ceux qui n'ont acheté que leur billet via Thomas Cook. Ce qui est sûr, c'est que l'autorité de l'aviation civile ouvre ce matin un site internet spécifique pour informer la totalité de ces naufragés des vacances qui se trouvent aujourd'hui dans une soixantaine de pays différents.
Antoine, si on en est là, c'est parce que Thomas Cook a enregistré 1,5 milliard de pertes cette année au premier semestre. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, il y a des raisons multiples. L'augmentation du prix du kérosène, l'impact des attentats sur le tourisme, l'incertitude liée au Brexit. Mais c'est surtout le poids de la dette qui est à l'origine de la chute. Le voyagiste a multiplié les prêts bancaires ces 10 dernières années pour acheter des sociétés, pour tenter de résister à la concurrence sur Internet. Résultat, plus d'1 milliard d'euros d'intérêts versés aux banques en 10 ans. Et puis, se pose aussi la question de la gestion de l'entreprise. Les dirigeants, les cadres de Thomas Cook ont touché ces 5 dernières années près de 25 millions d'euros en salaire et en bonus, dont 10 millions pour le directeur général de la compagnie. Peter Frankhauser parle ce matin de profonds regrets. Il présente ses excuses aux clients et aux 22 000 employés du groupe.
Antoine Gignot, merci. En direct de Londres, et c'est aujourd'hui chez nous en France que les tribunaux de commerce d'Evry et de Bobigny se pencheront sur les cas d'Aigle Azur et de XL Airways. 4 propositions de reprise pour la première compagnie. Une demande de mise en redressement pour la seconde qui appelle Air France à l'aide.
Il est 8h07, un sommet pour le climat, Florence, sans Donald Trump à New York.
À l'heure où une centaine de dirigeants de la planète afficheront leur ambition à l'ONU pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le président américain aura autre chose à faire. Il s'exprimera sur la protection des libertés religieuses. Quant à Jair Bolsonaro, il ne participera pas non plus à la réunion de mobilisation sur l'Amazonie. Le président du Brésil boycotte la rencontre. Emmanuel Macron et ses homologues des autres pays qui se partagent la forêt vont devoir le convaincre à distance, Christian Chéneau.
La forêt amazonienne continue de brûler, mais les pompiers ne s'entendent pas entre eux sur la meilleure façon d'arrêter le désastre écologique. Jair Bolsonaro, le président brésilien climato-sceptique, est accusé d'encourager la déforestation dans le but de développer l'industrie minière et agricole. Le Brésil ne veut pas se faire forcer la main par ses voisins ou encore par la France, qui, grâce à la Guyane, se considère comme un pays amazonien, aime rappeler l'Élysée. Pour Rémy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, l'enjeu est de convaincre le Brésil de défendre ce patrimoine naturel universel.
Il faut concilier cette attention internationale avec la souveraineté des États, puisque les 3/4 de la forêt amazonienne sont au Brésil. Et le Brésil a évidemment des droits et une responsabilité particulière dans cette affaire. Mais il y a urgence, à l'évidence. Et on a besoin d'autorités brésiliennes qui se saisissent du sujet à bras-le-corps.
Mais Jair Bolsonaro fait la sourde oreille. Le Brésil n'a pas l'intention de participer à la réunion sur la préservation de la forêt amazonienne qui doit rassembler aujourd'hui les pays riverains à l'ONU. New York, Olivia Branger, Christian Chéneau, France Inter.
Et toujours à l'étranger, ce procès spectaculaire en Algérie aujourd'hui, c'est le frère de l'ancien président qui est jugé, Saïd Bouteflika, que le nouvel homme fort du pays, le général Gaïd Salah, accuse de complot avec d'autres anciens responsables du régime. En France, le sujet politique du moment, de la semaine, c'est le budget 2020 présenté en Conseil des ministres en fin de semaine avec 5 milliards d'euros de baisses d'impôts à compenser, des baisses annoncées pour répondre à la crise des gilets jaunes. Pour ça, le gouvernement va prendre l'argent là où il est, à savoir au 1% logement, notamment qu'on appelle aujourd'hui Action Logement. 500 millions d'euros dans un premier temps, puis des ponctions jusqu'à la fin du quinquennat. Il faut dire, Claire Chaudière, que l'organisme paritaire pour l'aide au logement des salariés a publié il y a quelques semaines un bilan financier faramineux, une manne que le gouvernement jugerait mal utilisée. 83 milliards d'euros de bilan, dont 55 de patrimoine et 8 milliards rien qu'en trésorerie. L'ex 1% logement qui a récemment regroupé les comptes de tous ces organismes collecteurs a-t-il dormi pendant des années sur un tas d'or? Si la cagnotte d'Action Logement a toujours intéressé les gouvernements, la pression n'a jamais été aussi forte, explique Henri Buzicazo, fin connaisseur du secteur du logement à la tête de l'Institut des métiers de l'immobilier.
Cette richesse, il faut être sûr qu'elle va être bien employée. La conviction du gouvernement, c'est qu'il faut secouer Action Logement. La probabilité que cette ponction soit désormais régulière est très forte.
Une mesure parlementaire pour étendre cette contribution budgétaire au-delà de 2020 est effectivement en préparation, selon le rapporteur du budget. Inacceptable pour le sénateur LR de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier.
Ça suffit. Pour boucler le budget 2020, l'État fait les poches à tout le monde. Donc on voit bien dans quelle situation se trouve ce pays. L'État est en train de faire les fonds de tiroir partout. Ça n'est pas une manière de travailler. D'autant plus qu'il faut quand même rappeler qu'Action Logement, ce sont à la fois les entreprises et les syndicats qui gèrent.
Qui gèrent et qui ont d'ailleurs lancé ces jours-ci, rappelle Action Logement, un plan d'investissement de 9 milliards d'euros à destination des ménages modestes. Preuve peut-être que le trésor de guerre ne fait pas que dormir sur un compte en banque.
Et puis ce coup de rabot, on parle toujours du budget annoncé dans les Échos ce matin. Il s'agirait de tailler dans les aides à domicile pour les seniors en réservant l'exonération totale de cotisations sociales uniquement aux plus de 70 ans en perte d'autonomie. Après la RATP, il y a 10 jours, c'est la SNCF qui sera perturbée par une grève contre la réforme des retraites demain, mais dès ce soir, à l'appel de la CGT et de Sudrail, 2 Intercités sur 5, 3 TER sur 5, 1 Transilien sur 2 en moyenne. Demain, les TGV ne seront quasiment pas concernés.
Il est 8h12, ils veulent reconquérir la mairie de Marseille.
La gauche pourrait partir unie à la bataille du PC aux radicaux de gauche, en passant par le PS, les Verts et la France Insoumise. Une réunion est prévue jeudi pour parler candidature commune. Une chose étant certaine, Olivier Martoc, c'est que si candidat unique il y a, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon.
Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche que ce rassemblement totalement improbable est possible. À la manœuvre depuis plus d'un an, Olivia Fortin, une chef d'entreprise, via son collectif Mad Mars, elle a commencé par fédérer le milieu associatif. 35 comités de pilotage ont produit un socle en vue de réformer la gouvernance de la mairie de Marseille. Elle s'est ensuite rapprochée des politiques, les mettant à de nombreuses reprises autour d'une même table. À ce jour, 11 partis pourraient mener la bataille ensemble dans les 8 secteurs de la ville. Le PC, le PS, avec toutes ses composantes, comme Génération ou la gauche républicaine et socialiste, mais aussi la France Insoumise, ont signé un manifeste commun en ce sens. Ne manque plus que les Verts ou une guerre d'appareil ferrage, mais avec 70 cartes de militants à jour sur la ville, leur poids est relatif ici. Reste quand même la question de la tête de liste, d'autant que face à une droite totalement éclatée et LREM qui se cherche encore un candidat, la gauche pourrait créer la surprise après 25 ans de règne sans partage de Jean-Claude Gaudin. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Le premier homicide involontaire par trottinette jugé aujourd'hui au tribunal de Nanterre. C'est un jeune homme de 21 ans qui conduisait un deux roues électriques et qui avait renversé très violemment un octogénaire à Levallois-Perret au printemps dernier. Qui a donné la victoire au PSG hier soir face à Lyon à la 87e minute? Eh bien, c'est Neymar, comme la semaine dernière. Neymar et le PSG qui ont battu Lyon 1-0, opération reconquête accélérée pour le Brésilien depuis son départ raté du Barça cet été. Enfin, nous sommes le 23 septembre, certes. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, ou si vous nous écoutez dans une voiture entre deux contractions en vous rendant à la maternité, sachez que vous n'êtes pas les seuls, puisqu'aujourd'hui, 23 septembre, c'est journée de pic des naissances. Selon les chercheurs de l'INED, il naît en moyenne à cette date en France 5% de bébés de plus que les autres jours de l'année. On en attend 2300 à 2400 aujourd'hui. Pourquoi donc, Nicolas ? Parce que nous sommes précisément 265 jours après la Saint-Sylvestre. Et oui, Rémi Brancato.
Corentin Dionnet a 22 ans aujourd'hui. Il le sait, sa date d'anniversaire n'a rien d'original.
On a toujours envie que notre date d'anniversaire soit unique et apprendre qu'on est né le jour où il y a eu plus de naissances. On se dit que bah forcément, on est un peu comme les autres. Mais c'était une anecdote sympa, surtout avec le fait que j'ai ma sœur qui soit née 3 jours avant moi. Ça fait quelque chose qui nous rapproche.
Vos parents sont des récidivistes.
C'est exactement ça. Je peux comprendre les parents d'avoir conçu leurs enfants pendant la période de Noël. C'est une période assez agréable pour rester sous la couette.
Pour être précis, la nuit sous la couette, c'était sans doute plutôt pour le nouvel an, 265 jours avant le pic du 23 septembre. C'est la durée d'une grossesse. Et c'est le calcul qu'a fait Arnaud Régnier-Loilier, chercheur à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques.
On peut avoir une première hypothèse qui consisterait à dire que des couples qui ne se protègent pas parce qu'ils souhaitent avoir des enfants sont peut-être plus nombreux à avoir des rapports sexuels ce soir-là. Et puis une deuxième hypothèse qui serait celle d'une moindre vigilance contraceptive dans ce moment un peu de festivité.
Des imprudences qui conduisent d'ailleurs à l'augmentation des avortements dans les semaines qui suivent la Saint-Sylvestre. Auparavant, il y avait des variations saisonnières. Moins de bébés au XVIIe siècle, 9 mois après le carême qui proscrit les rapports sexuels. Désormais, ce sont plutôt les canicules qui font chuter les conceptions. Il y aura donc peut-être un peu de répit dans les maternités au printemps prochain.
Bah voilà, sinon rendez-vous au prochain Nouvel An. Et sachez que ce 23 septembre, c'est l'anniversaire de Bruce Springsteen. 70 ans. Joyeux anniversaire.
Oui, Bruce. Merci Florence Paracuelos.